Un roman sur à propos de la poésie. Vous voyez, là, c'est un problème qui me touche beaucoup, parce que la misère actuelle de la poésie. Il y a un article là, aujourd'hui, de Michel Deguy dans Libération, qui se rend compte brusquement que les poètes s'assemblent et vont dire des petits poèmes, on va écrire des petits poèmes avec le Fouquet, etc. Il y a cette ambiance de la poésie, tout le monde est prêt à célébrer la poésie ici. C'est effrayant l'état dans lequel se trouve la poésie, le poète. Alors je trouve que pour bien faire sentir ça, il faut quelque chose qu'on appelle le roman, du moins la façon dont je le traite, pour faire sentir à quel point la misère poétique du monde dans lequel nous vivons est intense, y compris sous sa forme d'esclavage du poète, etc., enfin, à qui on donne comme ça une toute petite prébende, hein, une sorte de, pour qu'il se tienne tranquille et qu'il fasse le poète, le poète servile, le poète qui a renoncé à la révolte, hein. Enfin, du moins ce que devrait être la
ouais,
grande
ça, c'est,
poésie.
c'est...
Voilà. Alors j'écris par exemple Studio, c'était un livre là-dessus, pour reprendre la question de Rimbaud, de Hölderlin, justement, pour montrer qu'au fond, on n'avait pas vraiment encore lu Rimbaud. Alors il est beaucoup question de Rimbaud, vous savez. Rimbaud, qui ne connaît pas Rimbaud. Il y a des jeunes gens qui se sont amusés à recopier les illuminations, à la machine à écrire, à l'envoyer à des maisons d'édition. Elles ont été refusées partout, bien que, voilà, ils n'avaient pas mis que c'était de Rimbaud. Sur Rimbaud, à mon avis, il y a beaucoup d'autres choses à dire qui n'ont jamais été dites. Personne, avant que j'en fasse état de façon précise dans Studio, n'avait lu le journal de Vitali Rimbaud, que pourtant vous avez en Pléiade en 1874 à Londres, cette sœur qui est morte avant lui. Et ça dit énormément de choses sur Rimbaud. On parle toujours de Rimbaud Harare, de Rimbaud Labarre, de Rimbaud opéré vivant de la poésie, comme dit Mallarmé. Mais on devrait considérer ça avec beaucoup plus de sérieux, de même les lettres de la mer, avec cette histoire extraordinaire de nettoyage de tombe, bon, etc. Hölderlin, c'est pareil. On n'avait pas vraiment, je pense, jusqu'à Studio, lu avec attention les lettres dites de la folie d'Hölderlin, c'est-à-dire les lettres envoyées à sa mère, etc. Alors, ce sont deux choses que j'ai essayé de bien comprendre. Comment que les poètes sont désignés à la vindicte, à la vengeance, à la haine mortelle des mers. Vous vous rappelez sans doute comment commencent les fleurs du mal par Bénédiction de Baudelaire, n'est-ce pas? Bon, le bûcher consacré au crime maternel. La mère est furieuse d'avoir mis au monde ce bubon empesté qui est, par un décret des puissances suprêmes, hein, est un poète. Bon. Alors les poètes et leurs mères, je crois que c'est à la fois comique et tragicomique et tout à fait à envisager avec radicalité. C'est la question des mères de Goethe, des mères qui veulent absolument qu'on ne sorte pas d'elles. Eh bien, les poètes me semblent avoir renoncé à se libérer de cette affaire, et donc comme elle est sociale aussi, familiale et sociale, la famille étant devenue la société étant une grande famille, désormais planétaire, on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, mais là, parlant des poètes, vous parlez de leurs journaux et de leurs correspondances et pas de leurs poèmes.
Si, je parle aussi très précisément d'Une saison en enfer, pas lue d'après moi, parce qu'on peut montrer les contresens très très précis sur Une saison en enfer, et puis Les illuminations, bien sûr, et par exemple, regardez la différence qu'il y a entre eux. Ah. Elle y retrouvait quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Ça, c'est le poème de Rimbaud. Il se reprend, il se corrige dans Une saison en enfer. Elle y retrouvait quoi? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Bon. Il y a eu quelqu'un, j'ai mis en exergue de Studio, j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. Ça, c'est la correction qu'introduit Rimbaud dans Une saison en enfer. Il n'y a pas vraiment de livre là-dessus. C'est très important, la publication qu'a voulu Rimbaud avec Une saison en enfer. C'est un livre toujours méconnu. Pourquoi Une saison en enfer, etc. Ça n'est pas vraiment compris. Ça n'est pas encore pris. Et donc c'est d'une telle importance, bien que ça ait plus d'un siècle, que je crois qu'il faut s'y attarder. Alors, tout le monde m'a dit, mais c'est pas, j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. C'est, j'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. Parce que ça a l'air de sonner mieux. Mais non, lui, il a voulu dire qu'aucun n'élude. Mais qu'aucun, c'est... Voilà, il faut... Vous savez, la poésie, il faut écouter chaque syllabe, chaque mot, et rentrer dedans.
Ben oui, donc, je ne vous dirais pas le contraire. Hein.
Voilà, il faut avoir de l'oreille.
Mais alors, Philippe Soler, j'ai sous les yeux le dernier numéro de L'Infini, la revue que vous dirigez chez Gallimard. Et je dois dire qu'à l'exception de François Cheng, qui est au sommaire, de Michel Deguy, mais qui ne donne pas de poèmes, je ne vois pas beaucoup de poèmes.
Eh bien oui, parce que je suis assez hostile à la forme dite poème. Je trouve qu'elle ne convient plus vraiment, elle n'est pas convaincante. Il faut être dans la poésie, et violemment dans la poésie, d'une autre façon, pour montrer justement que la forme poème ne convient plus. Voilà, les lignes inégales, etc., tout ça, le jeu avec ça, la misère éditoriale qui est là pour sanctionner cette espèce de camp dans lequel on rassemblerait les poètes, tout ça me paraît révoltant.
Oui, mais vous pouvez en publier dans votre collection.
Oui, mais je les trouve pas bons en général, voilà, c'est ça.
Alors c'est en réponse à cette misère de la poésie dont vous avez parlé.
Poésie de la misère, misère de la poésie, ça, il faudrait reprendre des formules de Marx, misère de la philosophie.
Que vous prononcez dans une jeune revue, Ligne de risque, un éloge de la richesse.
Oui, ça c'est très à contre-courant. C'est justement, je ne fais pas l'apologie de la misère.
Et vous ne faites pas non plus l'apologie du capital.
La richesse est bien entendu au sens spirituel du mot. Voilà. Parce que la misère, c'est avant tout la misère spirituelle. C'est pas la misère de l'argent. Je n'ai pas l'éloge du capitalisme financier à l'époque où nous vivons.
Non.
Loin de là, puisque je l'attaque constamment, précisément, alors qu'il est l'emblème même d'une grande misère spirituelle.
Rien n'est plus convoité, dites-vous, là, dans ce numéro de Ligne de risque. Halluciné que la richesse, personne n'a le droit de dire le contraire, ce n'est pas du capital que je parle, ni des individus qui l'instrumentalisent ou le brûlent, ceux qui manipulent l'argent sont fondamentalement aimés, on fait semblant de les haïr, mais au fond, on les aime, on les jalouse, c'est tout.
Oui.
Ce que la métaphysique ne tolère pas, c'est le fait qu'il y ait du destin, c'est-à-dire une passion fixe, là, la haine ne connaît plus de bornes.
Oui, parce que je crois que cette histoire d'indication du destin, c'est une indication de gratuité. C'est-à-dire, cet éloge de la vraie richesse, de la richesse incommensurable, qui est celle de Rimbaud, qui pourtant a une vie de chien, et qui gagne son argent très péniblement, comme chacun le sait, ou devrait le savoir, est, à mon avis, un non-renoncement à la poésie. C'est pour conserver cette extraordinaire gratuité. C'est tellement gratuit que c'est d'une richesse insondable. Hein. Je suis mille fois le plus riche, dit Rimbaud dans Une saison d'enfer. Mille fois le plus riche.